Au-delà de l'autoroute, les digues bloquaient les lumières des quartiers d'habitation. Luoji et Shixiang tâtèrent le sable pour trouver un endroit où s'asseoir. « Commençons, » dit Luoji, dont la voix résonna dans la pénombre. « Faites simple, parce que, avec mon niveau de culture, je risque de ne pas comprendre tout ce qui est compliqué. » « Tout le monde peut comprendre, Dashi. La vérité est simple. C'est un peu ce genre de choses auxquelles vous trouvez bizarre de ne pas avoir pensé plus tôt. Connaissez-vous les axiomes des mathématiques ?»«
J'ai appris la géométrie au collège. Une histoire comme « entre deux points, il ne peut y avoir qu'une ligne, c'est ça ?»«
Oui, c'est ça. Maintenant, nous allons définir deux axiomes pour les civilisations cosmiques. Premièrement, la survie est la nécessité première de toute civilisation. Deuxièmement, une civilisation ne cesse de croître et de s'étendre, tandis que la quantité totale de matière dans l'univers reste constante.
Et ?
C'est tout.
Et qu'est-ce qu'on peut en ressortir ?
Dashi, vous pouvez résoudre une affaire rien qu'avec une balle d'arme à feu ou une goutte de sang. La cosmosociologie part aussi de ces deux axiomes pour décrire une cartographie de toutes les civilisations de la Voie lactée et de l'univers. C'est cela la science d'Hachi. Les fondations d'un système sont forcément simples.
Alors, développez pour voir.
Tout d'abord, parlons de la bataille sombre. Me croiriez-vous si je vous disais que la Terre des vaisseaux est un microcosme de la civilisation cosmique?
Pas vraiment, non. La Terre des vaisseaux manque de combustible et de pièces, mais pas l'univers, il est trop grand.
Vous vous trompez. L'univers est certes très grand, mais la vie l'est encore plus. C'est ce que nous dit le deuxième axiome. La matière est constante, mais la vie augmente de façon exponentielle. Les fonctions exponentielles sont le démon des mathématiques. Imaginons qu'il y ait dans l'univers un microbe, invisible à l'œil nu, qui se scinde en deux toutes les demi-heures. Tant qu'il continue à avoir des nutriments en nombre suffisant, les descendants du microbe pourront un jour finir par remplir tout un océan. Il ne faut pas que le monde humain et le monde trisolarien vous donnent des illusions. Ces deux civilisations sont minuscules, mais elles n'en sont qu'au stade embryonnaire de leur existence. Une fois qu'une civilisation a maîtrisé la technologie au-delà d'un certain seuil, l'expansion de la vie dans l'univers devient terrifiante. Par exemple, prenons la vitesse de navigation humaine actuelle. Dans 1 million d'années, la civilisation terrestre pourra occuper la totalité de la galaxie. 1 million d'années à l'échelle du cosmos, c'est extrêmement court.
Vous voulez dire qu'à long terme, d'autres terres des vaisseaux dans ce genre pourront apparaître dans tout l'univers? En jouant, comment disent-ils, au jeu de la survie?
Même pas besoin de voir à long terme. L'univers tout entier est déjà un jeu de la survie. Comme l'a dit Heinz, la civilisation a peut-être bourgeonné dans l'univers il y a déjà des milliards d'années. Si l'on regarde les signes, nous pouvons présumer qu'il est peut-être déjà plein à craquer. Qui sait combien d'endroits de la galaxie et de l'univers sont encore inoccupés et combien de ressources inutilisées?
Mais ce n'est pas possible. Non, l'univers a l'air totalement vide. Hormis Trisolaris, nous n'avons jamais détecté la présence d'autres vies extraterrestres, non?
C'est ce dont nous allons parler un peu plus tard. Donnez-moi une cigarette. Luoji tâtonna un long moment dans le noir avant de saisir la cigarette dans les mains de Shixiang. En écoutant les paroles de Luoji, ce dernier réalisa qu'il s'était déjà assis 3 ou 4 mètres plus loin.
Nous devons augmenter la distance entre nous pour que nous ayons la sensation d'être dans l'espace,
dit Luoji. Puis il tordit le filtre de la cigarette et l'alluma. Au même moment, Shixiang alluma la sienne et, dans l'obscurité, ce furent comme 2 petites étoiles brillantes qui se faisaient face.
Bien. Pour expliquer le problème, nous avons maintenant besoin d'établir le modèle le plus élémentaire d'une civilisation cosmique. Ces 2 étoiles représentent 2 planètes civilisées. L'univers tout entier n'est composé que de ces 2 planètes. Il n'y a rien d'autre. Effacez tout ce qui se trouve autour. Est-ce que vous le ressentez ?
C'est un sentiment facile à éprouver dans un endroit sombre comme celui-ci.
À présent, imaginons que l'un de ces mondes civilisés soit le vôtre et que l'autre soit le mien. Ils sont séparés par une distance relativement importante, disons 100 années-lumière. Vous avez réussi à détecter mon existence, mais vous n'avez pas plus d'informations sur mon monde. Pour ma part, j'ignore tout de votre existence. Pour la suite, nous avons besoin de définir deux concepts, la bienveillance et la malveillance entre les civilisations. Ce ne sont pas des notions scientifiquement très rigoureuses, c'est pourquoi nous avons besoin de restreindre quelque peu leur signification. La bienveillance consiste à ne pas prendre l'initiative pour attaquer et détruire les autres civilisations. La malveillance, c'est le contraire.
Vous mettez la barre basse pour la bienveillance.
Vous connaissez donc l'existence de ma civilisation. Réfléchissez maintenant aux options qui se présentent à vous, me concernant. Attention, au cours de ce processus, il faut garder à l'esprit les deux axiomes de la civilisation cosmique, ainsi que l'environnement spatial et l'échelle de distance.
Je choisis de communiquer avec vous.
Si vous faites ce choix, il faut accepter le prix à payer. Vous exposez votre position.
En effet, dans l'univers, ce n'est pas rien.
Il y a plusieurs degrés d'exposition. Le degré le plus fort, c'est de me faire connaître précisément les coordonnées de votre système stellaire. Ensuite, c'est de me donner votre direction approximative. Et le plus faible degré d'exposition, c'est simplement de porter à ma connaissance votre existence quelque part dans l'univers. Mais même ce degré le plus faible d'exposition va peut-être me pousser à faire des recherches pour vous trouver. Et il y a fort à croire que si vous-même avez réussi à me détecter, il y a des chances pour que je vous trouve un jour. Du point de vue du développement technologique, c'est juste une question de temps.
Mais vieux frère, je veux toujours prendre le risque de communiquer avec vous. Si vous êtes malveillant, c'est foutu pour moi. Mais si vous êtes bienveillant, nous pourrons continuer à échanger et à nous deux devenir une plus grande civilisation bienveillante.
Bien, Dashi. Nous en arrivons au point crucial. Revenons aux axiomes de la civilisation cosmique. Même si je suis une civilisation bienveillante, m'est-il possible de savoir au moment où s'engage notre échange si vous êtes vous-même bienveillant?
Non, bien sûr, cela enfreindrait le premier axiome.
Alors que devrais-je faire après avoir reçu votre message?
Vous devez naturellement déterminer dans un premier temps si je suis bienveillant ou malveillant. Si mes intentions sont mauvaises, vous m'anéantissez. Si elles sont bonnes, nous continuons à échanger.
L'étoile scintillante du côté de Luoji avait pris de la hauteur et faisait des mouvements de va-et-vient. Luoji s'était manifestement levé et il faisait les 100 pas.
C'est possible sur Terre, mais pas dans l'univers.
Nous allons maintenant introduire un concept important, la chaîne de suspicion.
Bizarre comme expression.
Au début, je n'avais que l'expression. Elle ne m'en a pas dit plus, mais j'ai fini par deviner son sens grâce aux mots eux-mêmes.
Elle ? Qui est elle ?
Nous en reparlerons plus tard. Poursuivons. Si vous pensez que je suis bienveillant, ce n'est pas pour autant une raison pour vous sentir en sécurité. Car conformément au premier axiome, une civilisation bienveillante ne peut pas prédire que l'autre le soit aussi. En d'autres termes, vous ne savez pas encore ce que je pense de vous. Vous ne savez pas si je vous crois malveillant ou bienveillant. Allons plus loin. Même si vous savez que je vous pense bienveillant et que je sais que vous me pensez bienveillant, je ne sais pas ce que vous pensez de ce que je pense de ce que vous pensez.
Alambiqué, n'est-ce pas?
C'est simplement le troisième niveau, mais cette logique se poursuit indéfiniment.
Je comprends ce que vous voulez dire.
C'est ce qu'on appelle la chaîne de suspicion. C'est quelque chose qui n'existe pas sur Terre. Dans un environnement où l'humanité est une même espèce, avec une culture proche, un même écosystème interconnecté et une échelle de distance proche, la chaîne de suspicion ne peut s'étendre au plus qu'au premier et au deuxième niveau, avant d'être résolu par la communication. Mais dans l'espace, la chaîne de suspicion peut être très longue. Et avant d'être résolu par la communication, un événement comme la bataille sombre peut survenir. Shitsiang tira une bouffée de cigarette. Son visage pensif émergea un moment de l'obscurité.
On dirait que la bataille sombre a beaucoup à nous apprendre.
Oui. Les 5 appareils de la Terre des vaisseaux formaient 5 civilisations de type cosmique. Pas tout à fait des vraies, car elles étaient encore composées d'une même espèce, celle de l'humanité, et leur distance était par ailleurs très proche. Malgré tout, dans ce jeu de la survie, la chaîne de suspicion est apparue. Dans le cas de vraies civilisations cosmiques, les différences biologiques peuvent atteindre le niveau de l'embranchement, voire celui du règne, et les différences culturelles peuvent être encore plus inimaginables. Ajoutez aussi la distance, et vous aurez une chaîne de suspicion impossible à briser.
Ce qui veut dire que le résultat est le même, que vous soyez une civilisation bienveillante ou malveillante?
Oui. C'est là l'aspect le plus important de la chaîne de suspicion. Elle n'a rien à voir avec la moralité ou la structure sociale d'une société donnée. Il suffit de regarder les deux civilisations comme deux points aux extrémités d'une chaîne. Que les civilisations soient intrinsèquement malveillantes ou bienveillantes, quand elles entrent dans la toile tissée par la chaîne de suspicion, elles deviennent toutes identiques.
Mais si vous êtes beaucoup plus faible que moi, vous n'êtes pas une menace. Je peux tout de même communiquer avec vous, non?
Non plus. Et c'est là qu'intervient un deuxième concept important, l'explosion technologique. Ce concept non plus, elle n'a pas eu le temps de me l'expliquer, mais c'était un terme plus facile à deviner que celui de chaîne de suspicion. La civilisation humaine a 5000 ans d'histoire. La vie sur Terre a atteint les quelques milliards d'années, et la technologie moderne n'a véritablement commencé à se développer qu'il y a 3 siècles. À l'échelle du temps de l'univers, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler une évolution, mais une explosion. Un bond technologique potentiel est une poudre qui se cache à l'intérieur de chaque civilisation. Si un facteur interne ou externe y met le feu, elle explose instantanément. Pour la Terre, cela a pris 300 ans. Mais il n'y a pas de raison de considérer que la civilisation humaine est la plus rapide des civilisations cosmiques. Peut-être que d'autres explosions peuvent être plus violentes encore. Je suis plus faible que vous, mais au moment de recevoir votre message, j'apprends votre existence. Une chaîne de suspicion est donc établie entre nous. Pendant ce temps, une explosion technologique peut intervenir à tout moment, et d'un seul coup, je peux me retrouver loin devant vous, devenir bien plus puissant. Il faut savoir qu'à l'échelle de l'univers, quelques siècles ne constituent qu'une chiquenaude. Et ce message que vous m'avez envoyé et qui a dévoilé votre existence sera très certainement la meilleure mèche pour mon explosion technologique. Par conséquent, même si je ne suis qu'un embryon ou un bourgeon de civilisation, je reste un danger pour vous. Shixiang regarda quelques secondes dans la direction de l'étoile de feu de Luoji, puis il observa à nouveau le bout de sa cigarette.
Alors le mieux est de garder le silence?
Pensez-vous que cela puisse être possible? Tous deux fumaient. Au rythme de l'intensification lumineuse aléatoire de leurs étoiles, leurs deux visages émergeaient alternativement dans le noir comme deux dieux d'un univers primitif en train de réfléchir.
Non plus, dit Shixiang. Si vous êtes plus fort que moi, si je vous ai découvert, il y aura forcément un jour où vous serez capable de me trouver. Et entre nous va alors apparaître une nouvelle chaîne de suspicion. Si vous êtes plus faible que moi, mais que vous pouvez à tout moment connaître une explosion technologique, alors on revient à la première situation. En résumé, vous dévoiler mon existence comme vous laisser survivre sont pour moi deux attitudes dangereuses qui enfreignent le premier axiome.
Dashi, vous êtes vraiment un homme aux pensées extrêmement claires.
Pour l'instant, au moins, mon cerveau arrive encore à suivre.
Dans l'obscurité, Luoji resta silencieux un long moment. Son visage émergea encore 2 ou 3 fois dans la lueur de l'étoile avant qu'il ne lâche.
Dashi, il n'y a rien d'autre. Notre raisonnement est terminé.
Terminé? Mais qu'est-ce qu'on a appris? Et la cartographie des civilisations cosmiques dont vous avez parlé?
Après avoir pris connaissance de mon existence, si ni l'échange ni la communication ne peuvent marcher, il ne vous reste plus qu'un seul choix. Après un long silence, les deux étoiles s'éteignirent. Il n'y avait pas un soupçon de vent. Le calme de la pénombre devint aussi épais que de la poix, faisant se fondre ensemble le ciel nocturne et le désert. Pour finir, Shixiang ne prononça qu'un mot.
Putain!
Extrapolez votre choix à des milliards de civilisations sur des milliards de planètes et vous obtiendrez votre carte des civilisations cosmiques, dit Luoji en hochant la tête dans le noir.
C'est vraiment trop sombre, non?
L'univers réel est sombre, dit Luoji en secouant la main comme s'il voulait toucher le velours de l'obscurité. L'univers est une forêt sombre dans laquelle chaque civilisation est un chasseur armé d'un fusil. Il glisse entre les arbres comme un spectre, relève légèrement les branches qui lui barrent la route. Il s'efforce de ne pas faire de bruit avec ses pas. Il retient même sa respiration. Il doit être prudent, car la forêt est pleine d'autres chasseurs comme lui. S'il remarque une autre créature vivante, un autre chasseur, un ange ou un démon, un bébé sans défense ou un vieillard boiteux, une magnifique jeune fille ou un splendide jeune homme, il n'a qu'un seul choix, ouvrir le feu et l'éliminer. Dans cette forêt, l'enfer, c'est les autres, une éternelle menace. Chaque créature qui dévoile son existence est très vite anéantie. Voilà la cartographie de la société cosmique. C'est la réponse au paradoxe de Fermi. Shixiang alluma une autre cigarette, juste pour faire un peu de lumière. Mais dans cette forêt sombre, il y a un enfant idiot qui s'appelle l'humanité, qui a allumé une torche et qui crie autour de lui « je suis ici », dit Luoji.
Quelqu'un l'a entendu ?
C'est certain. Mais on ne peut pas forcément déterminer sa position. L'humanité n'a pas encore envoyé à l'univers de messages indiquant la position exacte de la Terre et du système solaire. Des informations déjà transmises, on peut simplement connaître la distance relative entre le système solaire et celui de Trisolaris, ainsi que la direction approximative de ces deux mondes dans la Voie lactée. Mais leurs coordonnées exactes sont encore un secret. Étant situés à la marge de la galaxie, nous sommes relativement en sécurité.
Alors, et votre histoire de malédiction ?
J'ai utilisé les miroirs solaires pour envoyer 3 cartes dans l'univers. Sur celle-ci se trouvaient 30 points représentant la projection en 2D d'un système de coordonnées en 3 dimensions. En recomposant le système de coordonnées à l'aide de ces 3 cartes, il est possible de former un espace cubique révélant ces 30 points. Ceci représente la position relative de 187J3X1 et des 29 étoiles autour de lui. Et j'ai aussi utilisé un symbole pour désigner 187J3X1. Réfléchissez plus minutieusement et vous allez comprendre. Imaginez un chasseur dans une forêt sombre qui marche en retenant sa respiration et voit soudain la trace d'une écorce éraflée, révélant un tronc blanc. À cet endroit est gravé quelque chose dans une langue que tous les chasseurs connaissent et qui indique une position dans la forêt. Que va-t-il en penser? Certainement pas que s'y trouve quelqu'un lui ayant préparé un bivouac. L'hypothèse la plus probable est que quelqu'un ait indiqué que se trouvait là-bas une proie vivante à éliminer. La motivation de l'informateur n'a pas d'intérêt. L'important, c'est que les participants au jeu de la survie de la forêt ont les nerfs à bout. Et le nerf le plus facile à toucher est aussi le plus sensible. Supposons que la forêt compte 1 million de chasseurs. Sur les centaines de milliards d'étoiles de la Voie lactée, les civilisations existantes sont peut-être des centaines ou des milliers de fois plus nombreuses. 900 000 ne prêteront peut-être aucune attention à ce signe. Parmi les 100 000 autres, 90 000 sonderont peut-être cette position, remarqueront qu'il ne s'y trouve aucune espèce vivante et la laisseront tomber. Mais parmi la dizaine de milliers de chasseurs restants, il y en aura forcément un qui fera le choix de tirer un projectile sur cette position, parce que, pour cette civilisation au développement technologique déjà très avancé, une attaque est peut-être moins coûteuse et plus prudente qu'une exploration. Et si rien ne s'y trouvait, ce ne serait pas une grosse perte. Et aujourd'hui, conclut Luoji, ce chasseur est apparu.
Vous ne pourrez plus envoyer votre malédiction, n'est-ce pas ?
En effet, Dashi, je ne pourrai plus l'envoyer. La malédiction doit être diffusée dans la galaxie entière, mais le soleil a été verrouillé.
L'humanité a eu un pas de retard ?
Shixiang jeta son mégot, et cette étoile volante dessina dans l'obscurité une courbe tombante, éclairant momentanément un petit carré de sable.
Non, essayez d'y penser.
Si le soleil n'avait pas été verrouillé, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais envoyé une malédiction vers Trisolaris?
Vous auriez fini comme Rei Diaz, sous une pluie de pierres. Puis il aurait été aussitôt absolument prohibé d'avoir de telles réflexions.
Exact, Dashi. Car la distance relative entre le système solaire et celui de Trisolaris, ainsi que leur direction dans la Voie lactée, aurait été dévoilée. Révéler la position de Trisolaris équivaudrait à révéler celle de la Terre. C'est une stratégie de perdant-perdant. Nous avons peut-être eu un pas de retard, mais l'humanité n'aurait de toute façon pas pu faire ce pas.
À l'époque, vous auriez dû menacer directement Trisolaris.
Les choses étaient trop étranges. Je n'étais pas sûr de moi à l'époque. J'avais besoin d'une preuve. Après tout, j'avais encore le temps. En réalité, la raison est peut-être à trouver au plus profond de moi. Je n'avais pas cette force mentale. Et je crois que personne ne l'aurait eu non plus.
En y pensant, nous n'aurions peut-être pas dû aller voir le maire aujourd'hui. Cette situation, si le monde la connaissait, il perdrait tout espoir. Rappelez-vous comment ont fini les deux premiers colmateurs.
Vous avez raison, j'aurais fini comme eux. C'est pourquoi j'espère qu'aucun de nous deux ne le dira jamais. Mais vous pouvez, si vraiment vous le voulez. Comme elle me l'avait dit elle-même, quoi qu'il arrive, j'aurai rempli mon devoir.
Ne vous inquiétez pas, vieux frère, je ne dirai rien.
Peu importe, il n'y a déjà plus aucun espoir. Tous deux grimpèrent sur la digue. Il y faisait moins sombre. Les lumières lointaines des habitations éparses suffisaient même à les éblouir.
Une dernière chose, et cette aile dont vous parlez?
Luoji hésita un instant et dit « Oubliez cela. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que je n'ai inventé ni les axiomes de la civilisation cosmique, ni la théorie de la forêt sombre. »
Demain, je retournerai travailler en ville. Si vous avez besoin d'aide dans le futur, n'hésitez pas à me le dire.
Dashi, vous m'avez déjà beaucoup aidé. Demain, moi aussi, j'irai en ville au bureau d'immigration des hibernautes pour demander qu'on les réveille. Contrairement à ce à quoi s'était attendu Luoji, le bureau d'immigration des hibernautes lui indiqua que sa demande de réveiller Chuangyan et sa fille avait été rejetée. Le directeur du bureau lui rapporta que les pouvoirs des colmateurs ne s'appliquaient pas ici. Il consulta Heinz et Jonathan, qui affirmèrent ne pas être au courant des détails, mais ils l'informèrent que la charte révisée des colmateurs comportait une clause grâce à laquelle l'ONU et le comité d'audience du programme colmateur pouvaient prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le colmateur restât concentré sur sa mission. En d'autres termes, cela voulait dire qu'après deux siècles, on se servait encore de la même méthode pour faire de Luoji un outil contrôlable. Ce dernier exigea que son quartier d'hibernaute reste dans la situation actuelle et qu'il soit préservé des perturbations du monde extérieur. Cette exigence fut fidèlement appliquée. Les médias et les pèlerins qui arrivaient en masse furent tenus à distance. Le calme revint au cinquième village de la nouvelle vie, comme si jamais rien ne s'était passé. Deux jours plus tard, Luoji participa à sa première audience depuis le rétablissement du programme colmateur. Il ne s'était pas rendu au quartier général des Nations Unies, encore situé en Amérique du Nord. Il était simplement resté dans sa propre maison, participant à la réunion par visioconférence. La scène de l'assemblée était projetée sur la télévision ordinaire de sa chambre.
Colmateur Luoji, nous nous étions préparés à ce que vous soyez fâché contre nous,
dit le président du comité conjoint. Mon cœur n'est déjà plus qu'un tas de cendres brûlées. Je n'ai plus la force de me fâcher, répondit Luoji en s'affalant nonchalamment dans son canapé. Le président hocha la tête.
C'est une très bonne attitude. Toutefois, les membres du comité d'audience estiment que vous devriez quitter votre quartier. C'est un lieu qui ne convient guère à l'établissement d'un poste de commandement pour la défense du système solaire.
Connaissez-vous Sibaipo? C'est un village encore plus petit que celui dans lequel je me trouve, pas très loin d'ici. Il y a deux siècles, les fondateurs de ce pays y ont établi leur poste de commandement et ont mené certaines des plus grandes offensives de l'histoire. Le président secoua la tête.
Vous n'avez pas changé. Très bien. Le comité respectera vos habitudes et vos choix. Vous devriez vous mettre rapidement au travail. Vous n'allez tout de même pas faire comme avant et prétendre que vous n'avez pas cessé de travailler, n'est-ce pas ?
Je ne peux plus travailler, car les conditions qui me permettraient de le faire n'existent plus. Êtes-vous capable de transmettre ma malédiction vers l'univers avec une puissance stellaire ?
Vous savez bien que c'est impossible,
répondit le représentant de la flotte asiatique.
Le parasitage du soleil opéré par la gouttelette se poursuit, et nous prévoyons qu'il ne cessera pas d'ici 2 ou 3 ans. Il n'y aura plus rien à faire à ce moment-là, car 9 autres gouttelettes auront atteint le système solaire.
Alors il n'y a rien que je puisse faire.
Si, collimateur Luoji,
répliqua le président.
Il y a encore quelque chose d'important que vous n'avez pas fait. Révélez le secret de votre malédiction aux Nations Unies et au Comité conjoint de la flotte solaire. Comment avez-vous fait pour détruire l'étoile ?
Je ne peux pas vous le dire.
Et si nous en faisions une condition pour réveiller votre femme et votre enfant ?
Vous osez proférer ici et maintenant un chantage aussi abject ?
C'est une audience secrète. Et sachez-le, le programme collimateur n'a pas vraiment sa place dans nos sociétés modernes. Puisque nous avons réactivé celui-ci, cela signifie que toutes les décisions prises par le comité il y a 2 siècles sont toujours en vigueur. Par conséquent, Chuang Yan et votre enfant ne seront réveillés qu'au moment de l'ultime bataille.
Ne venons-nous pas d'assister à l'ultime bataille ?
Ce n'est pas l'avis des 2 sphères internationales. Après tout, le gros de la flotte trisolarienne n'est pas encore arrivé.
Garder le secret de la malédiction relève de ma responsabilité de collimateur. Sinon, l'humanité perdra son dernier espoir. Même si à présent cet espoir ne semble déjà plus exister. Dans les jours qui suivirent l'audience, Luoji s'enferma chez lui. Il noyait son chagrin dans l'alcool et était ivre la majeure partie du temps. On le vit sortir à quelques reprises, les vêtements débraillés et la barbe hirsute comme un vulgaire vagabond. Une 2e audience de collimateur fut convoquée. Une nouvelle fois, Luoji y assista depuis son appartement.
« Collimateur Luoji, votre état nous préoccupe »,
commença le président en voyant l'apparence négligée de Luoji dans son écran. Il dirigea l'objectif de la caméra vers sa chambre pour que tous les représentants puissent apercevoir le sol jonché de bouteilles d'alcool vides.
« Vous devez vous mettre au travail, ne serait-ce que pour retrouver un état d'esprit normal »,
dit le représentant de la flotte européenne. « Vous savez très bien ce qui me permettrait de retrouver un état d'esprit normal. »«
Le réveil de votre épouse et de votre fille n'est pas si important »,
reprit le président.
Nous n'avons pas l'intention d'utiliser ce prétexte pour vous contrôler. Nous savons que vous n'êtes pas contrôlable. Mais c'est une décision prise par les anciens membres du comité, et modifier cette clause n'est pas si facile. Du moins, une condition doit être fixée.
J'ai déjà refusé votre condition.
Non, docteur Luoji, la condition a changé.
À ces mots prononcés par le président, les yeux de Luoji s'éclairèrent. Il se redressa sur son canapé. Et la nouvelle condition ?
C'est simple. On ne peut plus simple. Il faut que vous fassiez quelque chose.
Tant que je ne pourrai pas envoyer de malédiction dans le cosmos, il n'y aura rien que je puisse faire.
Trouvez tout de même quelque chose à faire.
Vous voulez dire, même si cela n'a aucun sens ?
Il suffit que le public pense que cela en est un. À ses yeux, vous êtes le porte-parole d'une justice cosmique ou bien un ange de la justice envoyé par Dieu parmi les hommes. Votre identité présente au moins l'avantage d'être utilisée pour garantir la stabilité de la situation mondiale. Si vous continuez à ne rien faire, la société perdra foi en vous.
C'est une façon dangereuse d'obtenir la paix sociale. Cela conduira à des troubles inéluctables.
Mais nous avons aujourd'hui besoin que la situation soit stable. Les 9 gouttelettes arriveront dans 3 ans dans le système solaire. Nous devons nous préparer à y faire face.
Je n'ai pas envie de gaspiller des ressources inutilement.
Dans ce cas, le comité vous confiera une mission qui ne gaspillera aucune ressource. J'invite à présent le président du comité conjoint de la flotte solaire à vous expliquer en quoi elle consiste.
Alors le président du comité d'audience se tourna vers ce dernier en l'invitant à prendre la suite. Celui-ci se trouvait à présent dans une structure située dans l'espace, car on voyait des étoiles glisser lentement derrière sa fenêtre.
Notre estimation de la date d'arrivée de ces 9 gouttelettes dans le système solaire est uniquement calculée à partir de leur vitesse et de leur accélération. constaté lors de leur dernière traversée d'un nuage de poussière interstellaire il y a 4 ans. Ces 9 gouttelettes diffèrent de la première en ceci que leur moteur fonctionne sans émettre aucune lumière ni aucun rayonnement électromagnétique à haute fréquence qui nous permettrait de les localiser. C'est très probablement un réglage effectué après que les humains ont été en mesure de détecter la trajectoire de la première gouttelette. Localiser et pister des objets aussi obscurs et minuscules dans l'espace est quasiment impossible, et nous avons maintenant perdu leurs traces. Nous ignorons quand elles rejoindront finalement le système solaire. Nous ignorons même comment nous pourrons les retrouver lorsqu'elles seront arrivées.
« Et que puis-je y faire ?» demanda Luoji.
Nous souhaiterions que vous preniez la tête du chantier d'un champ de neige.
En quoi cela consiste?
Utilisez des bombes à hydrogène à puissance stellaire et de l'oléatine neptunienne pour créer artificiellement un nuage de poussière dans lequel les gouttelettes laisseront des traces qui nous permettront de détecter leur présence.
Vous plaisantez? Vous savez bien que je suis absolument incompétent dans ce domaine.
Vous avez jadis été astronome. Vous avez toute la légitimité pour mener ce projet.
La dernière création d'un nuage a été une réussite car nous connaissions la trajectoire approximative de la cible. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le flou total. Si les 9 gouttelettes accélèrent ou changent de trajectoire, elles pourraient très bien arriver depuis l'autre côté du système solaire. Où voulez-vous construire votre nuage?
Dans toutes les directions.
Vous voulez dire envelopper le système solaire dans une sphère de poussière d'oléatine? Si vous y arrivez, c'est vous qui êtes un envoyé de Dieu.
Il ne nous est pas possible de créer une sphère de poussière, mais nous pouvons fabriquer un anneau de poussière au niveau du plan de l'elliptique, entre Jupiter et la ceinture d'astéroïdes.
Mais, et si ces gouttelettes passent à l'extérieur du plan de l'elliptique?
Alors nous ne pourrons rien y faire. Mais dans une perspective astrodynamique, si le groupe de gouttelettes veut passer à une distance proche de chaque planète du système solaire, le plus probable est qu'il entre par le plan de l'elliptique, comme l'a fait la première gouttelette. Si c'est bien le cas, la poussière que nous aurons créée sera en mesure de capturer leur sillage et le système de poursuite optique sera capable de verrouiller ses cibles.
Mais quel est le sens de tout ça?
Nous pourrions au moins savoir quand ces gouttelettes seront entrées dans le système solaire et quelles cibles civiles spatiales elles pourraient attaquer. Nous aurons alors besoin de rappeler tous les vaisseaux, ou au moins ceux qui se trouvent sur leur trajectoire, et d'évacuer les habitants des cités spatiales vers la Terre. Ces cibles sont trop fragiles. Et il y a quelque chose d'encore plus important,
ajouta le président du comité du programme collimateur.
Cela permettra d'identifier les trajectoires sûres pour que les vaisseaux puissent se replier vers les profondeurs de l'espace.
Se replier vers les profondeurs de l'espace? Nous ne sommes quand même pas en train de parler d'évasionnisme.
Si vous ne pouvez pas utiliser d'autres termes.
Pourquoi ne pas commencer l'évasion dès aujourd'hui?
Parce que les conditions politiques actuelles ne le permettent pas. Mais quand les gouttelettes seront proches de la Terre, une fuite à échelle limitée sera plus facilement acceptée par la communauté internationale. Bien sûr, ce n'est qu'une possibilité, mais il faut que les Nations Unies et les flottes s'y préparent.
Je comprends. Mais vous n'avez pas besoin de moi pour lancer ce chantier.
Si, car rien que la construction d'un anneau de poussière en orbite de Jupiter est un énorme projet. Il faut pouvoir déployer près de 10 000 bombes à hydrogène stellaire et quelques centaines de milliers de tonnes d'oléatine. Cela nécessite de constituer une énorme flotte spatiale. Pour achever ce chantier en 3 ans, nous allons avoir besoin de votre position et de votre prestige pour organiser et coordonner les ressources des Nations Unies et des 3 flottes.
Si je m'engage à mener cette mission, quand pourrez-vous les réveiller?
Dès que le chantier aura démarré. Comme je vous l'ai dit, ce n'est plus un problème.
Mais le chantier du champ de neige ne vit jamais vraiment le jour. Les différentes entités internationales n'étaient pas intéressées par cette initiative. En outre, ce qu'attendait le grand public du collimateur, c'était une stratégie pour sauver l'humanité entière et non un projet qui consistait simplement à informer du moment de l'arrivée de l'ennemi, d'autant que tout le monde était bien conscient qu'il ne s'agissait pas d'un projet élaboré par le collimateur lui-même, mais d'un simple programme des Nations Unies et du Comité conjoint de la flotte solaire qui s'était servi de son autorité. Contrairement aux prédictions des Nations Unies et des flottes spatiales, L'évasionnisme suscitait de plus en plus de répulsion à mesure que le groupe de gouttelettes approchait du système solaire. La mise en route intégrale du chantier du Champ de Neige provoquerait un coup d'arrêt important de l'économie et entraînerait une récession de grande échelle, tant sur Terre qu'au sein des flottes. Personne ne voulait en payer le prix. Aussi, l'établissement d'une flotte capable de collecter de l'oléatine sur Neptune, autant que la construction de bombes à hydrogène stellaire, connaissaient des retards dans leurs avancées. Des 5000 bombes qu'il restait du temps du Grand Ravin, seuls 1000 pouvaient aujourd'hui encore être utilisées, ce qui était loin d'être suffisant. Mais Luoji se dévoua corps et âme à ce chantier. Au début, les Nations Unies et le Comité conjoint de la flotte solaire avaient seulement dans l'idée de mettre sa popularité à profit pour réunir les ressources nécessaires. Mais ce dernier finit par s'immerger dans chaque détail du projet. Il en oubliait même de dormir et de s'alimenter et passait ses journées entières auprès des scientifiques et des ingénieurs du comité technique du projet. Il formula un grand nombre de suggestions sur sa mise en œuvre, en proposant notamment d'installer des moteurs ioniques sur chaque bombe afin de pouvoir leur permettre de se déplacer en orbite. Le moment venu, on pourrait ainsi ajuster la densité de la poussière sur différentes zones. Plus important encore, ces bombes pourraient être utilisées comme des armes offensives. Il les appela « mines spatiales ». Il expliqua que même s'il avait été prouvé que les bombes à hydrogène stellaire étaient inefficaces contre les gouttelettes, elles pourraient néanmoins peut-être servir à attaquer les vaisseaux trisolariens. Rien ne permettait en effet d'affirmer que les appareils de la flotte ennemie étaient faits dans le même genre de matériaux ultra-résistants utilisant l'interaction forte. Il sélectionna lui-même l'orbite où serait déployée chaque bombe. Même si, d'un point de vue technologique, plusieurs de ses suggestions étaient encore empreintes d'une candeur et d'une ignorance du XXIe siècle, en raison de son autorité et de son pouvoir de colmateur, ses avis furent pour la plupart pris en compte. Luoji avait fait du chantier du Champ de Neige une échappatoire. Il savait que s'il voulait échapper à la réalité, le mieux était de s'immerger dedans. Mais plus Luoji s'investissait dans ce projet, plus le monde était déçu de son attitude. Les gens n'étaient pas dupes. Ils savaient que son engagement n'avait guère de sens. Ce qu'il voulait, c'était retrouver au plus vite sa femme et son enfant. On n'avait toujours aucun signe du plan de sauvetage du monde tant attendu. Luoji déclara à plusieurs reprises devant les médias que tant qu'il ne pourrait pas lancer sa malédiction à une puissance stellaire, il serait complètement impuissant. Le chantier se prolongea pendant un an et demi avant d'être totalement interrompu. À ce moment-là, seules 1 500 000 tonnes d'oléatine avaient été collectées sur Neptune. Même avec les 600 000 tonnes déjà recueillies grâce au projet Parapluie de Brume, on était encore très loin de l'objectif de départ. Pour finir, 3 614 bombes à hydrogène stellaire enveloppées d'oléatine furent développées sur une orbite située à 2 unités astronomiques du Soleil. Cela ne représentait même pas un cinquième du programme originel. Quand elles seraient mises à feu, les bombes ne pourraient pas former une seule ceinture nuageuse continue, mais seulement quelques nuages indépendants les uns des autres tout autour du Soleil, ce qui réduisait grandement leur efficacité en termes d'alerte. C'était un âge où le désespoir surgissait aussi vite que l'espoir. Après un an et demi d'attente, le public avait perdu patience et confiance envers Luoji. Au cours du congrès de l'Union astronomique internationale, qui avait suscité l'attention mondiale en 2006 lorsqu'on avait retiré à Pluton son statut de planète, un grand nombre d'astronomes et d'astrophysiciens jugèrent que l'explosion de l'étoile 187J3X1 était un pur hasard. En tant qu'ancien astronome, Luoji avait sans doute simplement découvert quelques signes de l'explosion future de l'étoile au XXIe siècle. Quand bien même cette théorie comportait beaucoup de failles, de plus en plus de personnes y crurent et cela ne fit qu'accélérer le déclin du prestige de Luoji. Aux yeux du grand public, son image passa peu à peu de celle d'un messie à un homme ordinaire, puis à celle d'un escroc. Il bénéficiait encore de l'identité de colmateur et le programme était toujours effectif. Mais dans les faits, il n'avait plus aucun pouvoir.